Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur System Center Configuration Manager 1706. Cette vidéo est réalisée par la communauté Cloud Mobility and Data Center, donc vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site cmd.community, sur Twitter, ainsi que sur notre page Facebook. Je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien Duchesne, je suis MVP Enterprise Mobility. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur www.windowstouch.fr. Sur mon compte Twitter, Microsoft Touch, ou encore directement sur LinkedIn. Donc, System Center Configuration Manager 1706 reprend un petit peu les grands thèmes que l'on avait retrouvés dans la version 1702, à savoir des fonctionnalités autour de Windows 10 et Office, la sécurité des périphériques, la simplification et l'amélioration des performances du produit, les retours utilisateurs faits au travers de la plateforme User Voice, où vous êtes notamment nombreux à proposer des idées, à participer, à voter, et où Microsoft finalement sélectionne les idées les plus pertinentes et les plus populaires de manière à les développer et donc les intégrer dans le produit. Et enfin, un dernier pilier qui représente la facilité à l'accès aux services, donc ça peut être de différentes manières, l'accès aux services cloud, l'accès aux services internes. On détaillera ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, en ce qui concerne Windows 10 et Office, une première fonctionnalité qui est proposée ici en pré-version correspond à la gestion des mises à jour, donc des drivers, pour les périphériques Surface. Donc, ceci est en pré-version, hein, doit être activé à la demande et permet d'utiliser finalement le système de gestion de mise à jour logiciel pour télécharger les mises à jour de drivers à destination des périphériques Surface. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, outre l'activation de la fonctionnalité en pré-version, on retrouve un prérequis puisque vos différents software update points qui sont donc utilisés dans l'infrastructure doivent tous être hébergés sur Windows Server 2016. Deuxième capacité, c'est la configuration par le biais des paramétrages clients des fonctionnalités Windows Analytics. Donc Windows Analytics correspond finalement à tout ce qui est télémétrie proposée par Microsoft. Donc on le verra au travers d'une petite démonstration, ça permet de configurer donc l'identifiant commercial de votre entreprise de manière, derrière, à utiliser ces données de télémétrie, par exemple, dans la suite Operation Management Suite, OMS, pour connaître, par exemple, l'état de compatibilité des différents postes donc, des anciennes versions de Windows 10, ou encore connaître l'état de mise à jour des postes Windows 10 qui utilisent Windows Update for Business. On retrouve une amélioration très significative concernant le temps de téléchargement des mises à jour lorsque vous avez activé la fonctionnalité Express Update. Donc pour rappel, Express Update est une fonctionnalité WSUS qui existe depuis de nombreuses années, qui n'avait jusqu'alors pas été intégrée dans System Center Configuration Manager, mais qui permet à une machine de récupérer une partie de la mise à jour, donc uniquement certains blocs, qui correspond au binaire dont elle a besoin, dont la machine a besoin pour se mettre à jour. Donc c'est particulièrement intéressant finalement dans ce contexte où on a maintenant des correctifs cumulatifs qui peuvent faire plusieurs centaines, voire même plusieurs gigas, enfin, plusieurs gigaoctets. Et donc on retrouve une véritable amélioration des performances sur le temps de téléchargement. Une autre capacité, donc c'est la création de stratégies d'ajournement pour les mises à jour Windows 10, pour toutes les machines qui peuvent être gérées via Windows Update for Business. Donc on retrouve dans la console directement des stratégies. Enfin, on a l'amélioration de l'expérience utilisateur pour les mises à jour Office 365. Donc comme vous le savez, System Center Configuration Manager permet maintenant de gérer pleinement les mises à jour du client Office 365. On retrouve des améliorations dans les notifications à l'utilisateur lorsque finalement la mise à jour se lance. Donc, je vous propose de vous faire une petite démonstration de quelques fonctionnalités. Donc, on retrouve la console d'administration. Si je vais dans la partie administration, donc on peut voir que bien entendu mon site est bien entendu installé en version 17.06. Et donc, concernant par exemple la gestion des drivers pour les périphériques Surface, donc on va aller pouvoir éditer directement les composants du software Update Point. Et le prérequis en premier lieu va être d'activer donc cette case qui permet en fait d'inclure les mises à jour de driver Surface et de firmware. Donc d'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez remarquer que dans la classification La catégorie driver a disparu et n'est plus proposée, n'est plus synchronisée, contrairement à la version par exemple 2012 R2. Et donc c'est cette case qui permet de faire la synchronisation uniquement donc des drivers qui sont pour l'instant gérés par Microsoft. Donc en cochant cette case, en lançant la synchronisation de votre software update point, ceci va synchroniser les drivers et vous allez pouvoir les synchroniser directement depuis la partie software update. Donc parmi les autres fonctionnalités dont je vous parlais, on retrouve la capacité donc de créer des stratégies d'ajournement pour Windows Update for Business. Donc on peut créer notre stratégie. Hein. Et puis par la suite, on va pouvoir spécifier donc le niveau de branche entre Current Branch for Business et Current Branch, le nombre de jours d'ajournement pour les mises à jour de fonctionnalités. Donc quand on parle mise à jour de fonctionnalités, finalement c'est la mise à jour du système d'exploitation dans son ensemble. Donc par exemple, je vais décider 30 jours. On peut choisir aussi de mettre complètement en pause les mises à jour de fonctionnalités. Et puis on retrouve les mêmes options donc pour les mises à jour de qualité, donc les correctifs cumulatifs, où on va pouvoir spécifier un délai d'ajournement, ainsi que la capacité potentiellement de lancer une pause qui peut aller donc jusqu'à 35 jours au moment de la création et de la réception de la stratégie. Donc une fois que la stratégie est faite, vous pouvez bien entendu la déployer sur une collection, comme n'importe quelle autre stratégie que vous auriez pu créer. On retrouve donc, comme je vous le disais, la capacité via les client settings de paramétrer donc les paramètres de Windows Analytics. Donc on a une nouvelle partie Windows Analytics qui va permettre bien entendu de choisir de gérer cet aspect-là, de spécifier un commercial ID. Donc c'est ce que vous retrouvez notamment dans votre workplace OMS. Donc vous pouvez renseigner, c'est un GEID. Le niveau de télémétrie que vous souhaitez renvoyer. Et puis si vous souhaitez aussi gérer cette partie-là pour les postes Windows 8 points et plus. Et si vous souhaitez aussi renvoyer les données liées à la collection des données liées à Internet Explorer. Donc ceci est principalement utilisé donc pour le service Windows Analytics Upgrade Readiness. Alors que donc les paramètres liés à Windows 10 sont utilisés plutôt pour la partie Update Compliance. Parmi les fonctionnalités liées à la sécurité des périphériques, l'inventaire matériel permet maintenant de collecter les informations de Secure Boot. Donc auparavant, dans la version 17.02, Microsoft avait ajouté les informations liées à l'UEFI. Maintenant, on sait un petit peu plus d'informations liées à la partie Secure Boot. On retrouve aussi dans les stratégies Device Guard la capacité d'inclure certains fichiers ou dossiers spécifiques dits de confiance. Donc si vous savez pertinemment qu'un exécutable présent par exemple dans ces programmes Files, Microsoft Internet Explorer, est un exécutable dit de confiance, vous pouvez ajouter donc ce dossier de manière à ce que par défaut, un périphérique configuré donc avec la fonctionnalité Device Guard puisse lancer les différents exécutables provenant de ce chemin. Côté facilité à l'accès au service, on retrouve des améliorations liées au service Azure Active Directory au sens large. Donc on retrouve un assistant qui va permettre de configurer les différents services Azure. On va pouvoir maintenant utiliser Azure Active Directory pour authentifier les clients lorsqu'ils sont sur Internet et permettre aux clients d'accéder au site Configuration Manager. Donc là, cette fonctionnalité-là, elle prend place pour ce qu'on appelle la Cloud Management Gateway, qui est l'équivalent d'une passerelle provisionnée dans Azure, et qui va permettre aux clients de dialoguer lorsqu'ils sont en mobilité, donc directement sur Internet. Auparavant, on avait la nécessité d'utiliser des certificats d'authentification client. Cette capacité est bien entendu toujours disponible, mais vous pouvez aussi utiliser donc directement Azure Active Directory avec un certain nombre de prérequis. Donc il faut que le poste soit joint à Azure Active Directory, etc., de manière à assurer l'authentification. De la même façon, cette fonctionnalité va aussi permettre donc d'installer et gérer des clients Configuration Manager directement depuis Internet, donc via le mécanisme de Cloud Management Gateway. Et puis, on va avoir la capacité donc d'effectuer une découverte Azure Active Directory des utilisateurs présents donc dans un tenant Azure Active Directory et de ramener ces informations un peu de la même manière finalement que les découvertes traditionnelles qu'on peut avoir. Donc si on retourne dans la console, dans la partie Cloud Services de l'ensemble administration, on va retrouver un élément Azure Services dans lequel on retrouve tous les services qui ont éventuellement déjà été configurés. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai le service OMS, le service Upgrade Readiness et Windows Store for Business. On retrouve ce fameux assistant qui, si vous avez éventuellement pas configuré aucun service, on va pouvoir retrouver l'ensemble des services. Les trois services en plus que j'ai cités ici, on va les retrouver listés ici. Et on va pouvoir les sélectionner et indépendamment les uns des autres, on va pouvoir donc commencer la configuration en ciblant un environnement Azure dédié, en créant automatiquement la web application qui va être nécessaire à l'interconnexion à Azure, en sélectionnant donc l'application cliente native et puis en configurant par exemple en l'occurrence ici la découverte des utilisateurs. Donc on va vraiment avoir un assistant unique qui va permettre de configurer chaque service Azure et de vous assister contrairement à ce qu'on pouvait avoir avant où il y avait énormément d'étapes à faire dans le portail Azure, à faire côté console d'administration, etc., etc. On va retrouver encore une fois de nouveaux paramétrages clients, mais qui vont être eux ciblés donc pour les services cloud. Donc je parlais de la Cloud Management Gateway. On va pouvoir véritablement choisir quels clients peuvent y accéder. On peut très bien décider que par défaut, certains clients, lorsqu'ils sont sur Internet, ne dialoguent pas avec ce service-là. Donc on retrouve un paramétrage de ce type. On va retrouver un paramétrage plus global qui va permettre aux machines qui ont donc un client SSM Windows 10, des machines Windows 10, de pouvoir joindre le domaine Azure Active Directory. Donc de s'enregistrer automatiquement dans Azure Active Directory. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Chose qui auparavant pouvait être fait notamment par GPO, mais qu'on peut maintenant gérer directement via des paramétrages clients. Toujours côté simplification et performance. On va retrouver encore une fois des améliorations au concept des groupes de limite, mais qui vont cette fois-ci toucher ce qu'on appelle donc les software update points, ces rôles qui permettent notamment de gérer les mises à jour logicielles. Donc auparavant, le travail qu'avait fait Microsoft ciblait les points de distribution, qui sont utilisés pour récupérer le contenu. Ici, les améliorations vont donc toucher les mises à jour logicielles, de manière à pouvoir par exemple définir une configuration de bascule. Lorsque par exemple un client à qui on a associé un software update point n'arrive pas à le contacter parce que par exemple la machine est éteinte ou hors ligne, on va pouvoir lui spécifier un autre software update point, on va dire de bascule, vers un groupe de limite voisin. Donc aujourd'hui le temps par défaut spécifié par Microsoft est de 120 minutes, mais on peut régler ces temps de bascule comme on le souhaite. Par défaut, tous les software update points qui sont associés au groupe de limite du client vont être donc ajoutés à la liste et au pool que le client possède, si on fait la référence à comment fonctionnait le système auparavant. Et lorsqu'on va avoir un échec de communication avec un serveur, le client va tenter en fait finalement un cycle de communication vers un nouveau software update point et puis il va éventuellement retenter ainsi de suite. Donc ça va se passer toujours dans la console d'administration, mais donc dans la partie Boundary Groups, dans lequel vous retrouvez vos différentes limites. Donc si je prends par exemple un de mes groupes de limites, j'utilise ici donc les sites Active Directory, et on voit donc qu'ici on retrouve un système de sites, donc en l'occurrence c'est mon site primaire, qui comporte à la fois le rôle point de distribution et software update point. Donc si on imagine qu'on est plutôt dans une configuration où c'est un site distant avec un software update point, un point de distribution dédié, on peut très bien imaginer créer donc une relation. Donc je vais pouvoir ajouter un autre groupe de limites, donc par exemple celui-ci, et spécifier donc les temps de bascule. Donc par exemple, je peux très bien dire voilà, au bout de 30 minutes, lorsque le client essaie de contacter son software update point assigné dans son groupe de limite principal. Au bout de 30 minutes, s'il n'a pas réussi, il va basculer sur ce nouveau groupe de limites et il va basculer donc sur ce software update point. On peut aussi explicitement spécifier que donc le client ne doit pas basculer de manière à contrôler totalement le comportement de bascule, etc. Donc c'est très intéressant puisque du coup, contrairement avec ce qu'on pouvait avoir auparavant dans l'ancien système, on peut véritablement ici contrôler quel client dialogue avec quel software update point. et quel client éventuellement bascule sur un autre groupe de limite ou sur un autre software update point en cas de problème sur son software update point principal. Chose qui n'était pas auparavant possible. Parmi les simplifications et donc les améliorations de performance, sur la fonctionnalité client peer cache, qui est l'équivalent finalement d'une fonctionnalité de peer-to-peer directement gérée par le client SSM. Hein. Donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut retrouver avec Branch Cache, mais ici c'est directement construit et inclus dans SSM, sans aucun prérequis lié à la version enfin, l'édition de Windows. Et donc ici, une des améliorations, c'est la suppression du prérequis qu'on retrouvait auparavant, qui nécessitait de donner les droits en lecture au compte d'accès réseau sur le cache de chaque client qui était utilisé comme source de téléchargement par les autres. Donc ce prérequis a été supprimé. Outre donc cette amélioration, on retrouve enfin le support de la fonctionnalité Express Files, donc qui est utilisée pour les mises à jour Windows 10 ou Office 365, par cette fonctionnalité client peer cache, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une autre nouveauté, mais qui était déjà présente en pré-version dans la version 17.0.2, mais qui fait son passage en version finale, c'est le rôle Data Warehouse Servicing Point, qui permet véritablement de faire de l'extraction de données depuis la base de données, de manière à stocker des données à des fins de reporting sur une période plus longue. Donc, outre donc le passage en version finale, qui signifie que Microsoft a véritablement validé la fonctionnalité, qu'on retrouve quasiment plus aucun bug, etc., on retrouve la capacité maintenant de mettre ce rôle dans des configurations de cluster, ainsi que dans des groupes de disponibilité SQL Server Always On. D'une manière générale, encore une fois, en termes de simplification et performance, concernant la base de données de site, donc, elle supportait déjà les groupes de disponibilité SQL Server Always On, mais maintenant on a une configuration qui permet d'utiliser des réplicas avec ce qu'on appelle des commits asynchrones. Donc c'est une fonctionnalité qui pouvait être demandée par un certain nombre d'entreprises. C'est maintenant pleinement supporté. On retrouve un outil qui va être très utile lorsque vous mettez éventuellement à jour votre site d'une version à l'autre. Donc l'outil s'appelle Configuration Manager Update Reset Tool. Et il permet, lorsqu'il est utilisé, de corriger les quelques problèmes qu'on pouvait avoir éventuellement lors du téléchargement ou de la réplication des mises à jour donc du produit qui sont proposées au travers de la console d'administration. Donc cet outil va corriger, on va dire, la majorité des problèmes qu'on pouvait retrouver parfois et qui nécessitaient d'appeler le support de Microsoft. Microsoft a ajouté une notification cliente qui permet de vérifier l'état de conformité pour l'accès conditionnel. Donc directement depuis une collection, maintenant vous pouvez initier sur un groupe de périphériques la vérification de l'état de conformité. Microsoft a ajouté plus d'une centaine de commandes PowerShell, notamment pour tout ce qui est déploiement de système d'exploitation, la création de séquences de tâches, l'ajout de tâches dans les séquences de tâches, etc. Donc là, je vous invite à vous rapporter à la documentation. On retrouve maintenant un nombre assez impressionnant de commandes PowerShell qui permettent véritablement d'automatiser et d'administrer correctement le produit. Parmi les améliorations, donc dans les retours utilisateurs, c'est quelque chose qui était fortement demandé. On a une fonctionnalité maintenant qui permet de créer et d'exécuter des scripts PowerShell directement sur des collections sans avoir à passer par des packages ou des séquences de tâches comme ça pouvait être le cas auparavant dans de nombreuses entreprises. Donc cette fonctionnalité est très intéressante, très puissante. Je vais vous en faire une petite démonstration. Donc ça se passe dans la partie software librairie. On retrouve un onglet script dans lequel vous pouvez donc créer un script. Vous pouvez donc soit écrire directement votre script dans la fenêtre ou importer un script que vous avez pu créer. Donc par exemple, moi j'ai un script de maintenance du client SSM que je vais importer. Je vais lui donner un nom, donc on peut directement l'éditer dans la fenêtre. Je vais créer ce script. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible, via les propriétés, de modifier le script, excepté si le script a été signé, hein, là où là il va falloir éventuellement le réimporter. Mais dans l'immédiat, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on retrouve donc l'auteur du script et ce qu'on appelle un état d'approbation. Donc ça, c'est une notion assez importante puisque les scripts PowerShell, comme vous le savez, sont extrêmement puissants. Et en gros, Microsoft, par défaut, empêche un utilisateur d'importer un script et directement de l'exécuter sur une collection. Donc ça nécessite une approbation par un autre administrateur. Donc j'ai une autre console qui est présente ici. Je vais aller dans Software Library et puis bien entendu, ben voilà, je vois le script de mon autre utilisateur. Donc je vais pouvoir choisir de l'approuver. Donc je vois bien entendu le contenu du script, hein, je peux regarder ce que ça fait, etc., etc. Je vais pouvoir choisir donc de l'approuver ou de le refuser en mettant une raison. Voilà. Donc là, le script a été approuvé, hein, comme on peut le voir. Et donc mon autre utilisateur va pouvoir ensuite, donc lorsqu'il a été approuvé, aller dans la partie Asset and Compliance, cibler une collection et faire Run Script. Il va pouvoir sélectionner donc les différents scripts qui ont été approuvés, hein, qui sont disponibles et sur lesquels il a la vision. Donc par exemple ce script-là, et il va pouvoir l'exécuter. Donc là en l'occurrence, moi je n'ai aucune ressource dans la collection, mais il va pouvoir lancer l'exécution. Pendant 1 heure, le site va éventuellement proposer le script au client qui se connecte. Et donc pendant 1 heure, le script va pouvoir s'exécuter. Passé le délai d'1 heure, les clients vont, l'administrateur va devoir éventuellement réexécuter le script sur la collection si certains clients ne l'ont pas exécuté. On va trouver dans la partie script status l'état du script, l'état d'exécution, avec éventuellement donc le code retour, et puis éventuellement bien entendu l'élément de sortie qui est renvoyé par le script, ainsi que bah, bien entendu le client qui l'a exécuté. Donc en l'occurrence là on voit ici que c'est WT client 10.2. Autre retour utilisateur, donc on a une amélioration de l'accessibilité. Ça se traduit par un certain nombre de raccourcis hein, qui peuvent être utilisés dans la console d'administration, bon, à des fins d'accessibilité ou tout simplement pour faciliter le travail de l'administrateur. Donc par exemple, on peut retrouver des raccourcis tels que CTRL-M pour revenir sur le panneau principal, CTRL-T pour changer le focus vers le nœud principal de la page de navigation, etc., etc. Je vous invite à consulter éventuellement la documentation pour en apprendre plus sur ces raccourcis. On retrouve, et ça c'est quelque chose qui pour les utilisateurs des périphériques Surface ou globalement pour tous les périphériques qui ont des résolutions très élevées, on retrouve le support de ces résolutions-là, puisqu'auparavant, pour ceux qui utilisaient la console, on retrouvait des assistants dont les écritures étaient complètement soit trop petites, soit trop grandes, des boutons trop grands, etc. Donc avec des machines qui sont équipées de Windows 10 17.03 et cette nouvelle version-là, on a un support complet de ces résolutions et normalement donc les administrateurs ne devraient plus rencontrer de problème. On retrouve une fonctionnalité relativement intéressante qui permet de créer donc des liens directs vers une application dans le centre logiciel. Donc voilà, il faut utiliser finalement la forme Software Center de point Software ID égale et puis ben, l'identifiant de l'application. Donc vous pouvez envoyer ça finalement à un utilisateur dans un email, puis il peut cliquer dessus et automatiquement donc ça va ouvrir le centre logiciel sur l'application en question. On va retrouver une fonctionnalité là aussi qui était fortement demandée, c'est la capacité de spécifier des emplacements de contenu différents pour l'installation et la désinstallation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonctionnalité, elle n'est pas disponible directement depuis l'assistant de création des applications. Vous devez d'abord créer votre application avec les différents types de déploiement. Et donc vous devez ensuite modifier les propriétés du type de déploiement. Donc par exemple, si vous avez un type de déploiement de type script. Et c'est à ce moment précis où vous allez avoir accès à la partie qui permet de spécifier un emplacement alternatif pour la désinstallation. On retrouve d'autres améliorations qui cette fois-ci sont relatives au déploiement de systèmes d'exploitation. Donc la première, elle est assez simple. Elle permet de pouvoir réduire ou replier les groupes de séquences de tâches dans l'éditeur de séquences de tâches. Donc je vous montrerai, ça c'est relativement intéressant lorsqu'on a des séquences de tâches qui sont très très longues avec un nombre impressionnant de tâches. On va pouvoir là aussi recharger les images de démarrage avec la version de Windows PE courante, donc avec la version ADK qui est installée sur le serveur de site. Ça pouvait souvent poser problème lorsque vous deviez mettre à jour l'ADK. Ça demandait à l'administrateur de régénérer les images Windows PE à la main avec différentes commandes. Là, Microsoft propose finalement une option directement dans l'assistant de mise à niveau des images de démarrage. On retrouve une nouvelle colonne OS version aux images et au package de mise à jour de système d'exploitation qui permet d'identifier véritablement donc la version du système d'exploitation. Microsoft a amélioré la journalisation donc dans le fichier SMS TS.log en enlevant tout un tas de lignes de dépannage, de debug qui étaient souvent utilisées par les personnes du support, mais qui avaient tendance à donc pourrir un petit peu les fichiers de log. Et puis donc comme je vous le disais, on retrouve donc toute une série de commandes PowerShell qui permettent de créer, éditer, supprimer des séquences de tâches et les différentes tâches qu'on retrouve à l'intérieur. Donc si on prend par exemple une séquence de tâches, en éditant, on peut voir que voilà, Microsoft a ajouté tout simplement ce petit plus et ce petit moins qui permet éventuellement de réduire un groupe de tâches et d'y voir plus clair dans la séquence de tâches. Concernant les images de démarrage, donc comme je vous le disais, si vous mettez à jour votre version de l'ADK, lorsque vous mettez à jour donc le point de distribution et l'image de démarrage, vous avez une case qui permet de recharger l'image de démarrage avec la version de Windows PE courante et donc de mettre à jour finalement la version de Windows PE. Donc là, jusqu'à maintenant, on avait parlé un petit peu des fonctionnalités un petit peu générales. Là, je vais faire un focus sur la gestion hybride. Donc lorsque vous utilisez System Center Configuration Manager couplé à Microsoft Intune. Donc on retrouve un certain nombre de fonctionnalités relatives à la sécurité des périphériques. La première est une fonctionnalité un petit peu générale qui va permettre de restreindre l'enregistrement des périphériques iOS et Android pour les périphériques personnels. C'est-à-dire que l'administrateur, en cochant une certaine case, va bloquer l'enregistrement de périphériques non connus qui n'ont pas été prédéclarés dans l'infrastructure System Center Configuration Manager. Donc ça va nécessiter éventuellement soit d'utiliser le programme Apple Dep, soit de prédéclarer tous les périphériques en utilisant le numéro de série ou le numéro IMEI. On va retrouver de nouveaux paramétrages pour les stratégies de gestion applicative et de gestion d'applications mobiles. Donc, par exemple, on va pouvoir choisir de bloquer la capture de l'écran sur Android. On va pouvoir, par exemple, désactiver la synchronisation des contacts ou désactiver l'impression. On va retrouver de nouveaux paramétrages pour les périphériques Windows 10 gérés en mode moderne, donc gérés avec Microsoft Intune, pour gérer par exemple le chiffrement du périphérique hein, avec BitLocker, de gérer donc la modification des paramétrages régionaux, etc., etc. On retrouve à peu près une dizaine, plus d'une dizaine de configurations qui vont toucher à la fois le périphérique, éventuellement le store ou Microsoft Edge. On va retrouver de nouvelles règles de conformité qu'on va pouvoir ajouter à nos stratégies de conformité pour valider éventuellement que le client est conforme et qu'il puisse accéder aux ressources de l'entreprise. Par exemple avec une règle qui va permettre de valider le type de mot de passe utilisé, de bloquer sur Android le dépannage USB. De bloquer les applications qui proviennent de sources inconnues, toujours sur Android, ou de demander donc un scan des menaces concernant les applications sur Android. Enfin, on va retrouver une autre capacité qui va permettre de créer des stratégies de configuration des applications Android via Android for Work. Donc, je vais vous faire une petite démonstration du blocage des périphériques BYOD. Donc pour cela, vous devez aller dans Administration, Cloud Services, Microsoft Intune Subscription, et vous allez pouvoir éditer donc les différentes plateformes, à savoir qu'aujourd'hui c'est disponible pour Android et iOS. on va trouver donc l'option qui permet de bloquer donc l'enregistrement des périphériques personnels. Donc lorsque vous cochez cette case-là, c'est bien spécifié en dessous, vous devez prédéclarer les périphériques en utilisant le numéro IMEI pour Android et pour iOS, le numéro de série ou le numéro IMEI en fonction de ce que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez aussi bien entendu toujours utiliser le programme Apple Deb puisque c'est un programme d'enregistrement en masse approuvé par Apple et que donc les périphériques sont prédéclarés. Donc je vous en avais parlé auparavant, on peut créer des stratégies de configuration d'applications. Donc c'était déjà disponible auparavant pour iOS et on retrouve aujourd'hui la même capacité pour Android, qui permet donc de configurer les applications Android for Work. Donc ça nécessite que le périphérique soit enregistré en mode Android for Work. Vous pouvez spécifier soit directement des valeurs associées donc au nom de configuration. Donc par exemple, je ne mets pas username. Soit de spécifier directement le fichier de liste de propriétés. Sachant que bien entendu, on retrouve des standards sur Internet qui permettent éventuellement, donc par exemple pour le nom d'utilisateur, d'utiliser le nom d'utilisateur du portail d'entreprise, etc., etc. Enfin, on retrouve des capacités qui vont permettre de faciliter l'accès au service. Donc, on va retrouver le support de Cisco IPsec pour la création de profils VPN sur iOS et macOS. On va avoir la capacité d'utiliser l'autorité de certification nTrust pour le déploiement de certificats PFX pour des périphériques qui sont gérés donc par Microsoft Intune en mode moderne. Et on va retrouver la capacité de créer donc des profils de certificats PFX justement pour des clients Windows 10 gérés de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec le client STCM. Donc si on prend la partie autorité de certification nTrust, je vais vous montrer assez rapidement. Dans la partie Asset and Compliance, lorsque vous créez un profil de certificat, vous pouvez choisir donc le déploiement de certificat de type PFX. Et donc, on a la capacité de choisir soit entre donc une autorité de certification Microsoft, donc Active Directory Certificate Services, soit une autorité de certification nTrust. Et de cette façon-là, on va pouvoir spécifier donc les différentes URL du serveur nTrust, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur System Center Configuration Manager 17.06. Je vous invite à consulter donc les différentes pages Facebook, site internet donc de la communauté CMD pour plus de vidéos sur d'autres sujets liés au cloud et aux différents environnements Microsoft. Je vous invite aussi à venir me contacter ou à consulter mon blog, à partager des informations avec moi sur Twitter, à me suivre et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.